Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Hissez la grande voile!
Politique, société.
Il n'y a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward.
Tout le monde est à son poste ?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'info de Radio Campus Angers.
Demain, non seulement c'est le printemps, non seulement il y a une éclipse de soleil qui va nous rappeler 99, un temps où certains d'entre nous n'étaient pas encore au collège, mais c'est surtout la journée internationale du bonheur. Alors c'est aussi la journée mondiale de la santé bucco-dentaire, la journée mondiale du moineau et celle du macaron. Sachez que nous sommes aussi en pleine semaine mondiale pour les alternatives aux pesticides, mais ce qu'il y a à retenir, c'est donc que demain c'est la journée mondiale du bonheur. Et que c'est sérieux parce que c'est l'ONU qui l'a décrété. Et pour fêter ça en grande pompe, l'organisation va publier une playlist pour avoir le sourire avec cette question: quelles chansons rendent heureux? Là où il y a comme un sou, c'est que le jury nommé pour composer la playlist compte de beaux noms comme James Blunt ou David Guetta. De quoi nous faire chialer en cette journée du bonheur. S'il y avait besoin d'un exemple, l'année dernière, la chanson choisie pour nous donner le sourire, c'était Happy de Pharrell Williams.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, nous recevrons Sophie Génaud, chargée de projet culture à la direction de la culture et des initiatives de l'Université d'Angers. Elle viendra nous parler du festival de la création universitaire. Mais d'abord, dimanche, on vote. Et oui, et on vote pour qui? On vote pourquoi? On vote comment? Et est-ce qu'on va beaucoup voter en France d'ailleurs? Si vous n'avez rien suivi aux élections départementales et surtout, si vous voulez y voir plus clair, ne quittez pas.
Les 22 et 29 mars prochains, les Français seront appelés aux urnes pour choisir leurs conseillers départementaux.
Si je vous dis conseiller départemental, ça vous parle?
Non. Non, pas du tout.
Ancien conseiller général, ça vous parle plus?
Non. Nous, à part les maires et les présidentielles, on ne sait pas trop les votes et tout ça en fait.
Extrait de deux reportages de France Télévisions. Bah oui, c'est galère de trouver ça sexy, les élections départementales, mais on va tout de même essayer. Bonsoir Christian Pillet.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de géographie sociale à l'Université d'Angers et vous allez essayer de nous aider à y voir plus clair avec Adrien. Bonsoir Adrien.
Salut Tiffaine.
Tu vas poser des questions avec moi parce que tous les deux on est un petit peu perdus. Alors les élections départementales, Christian Pillet, elles auront donc lieu dimanche prochain pour le premier tour, le 22 mars. Et puis le dimanche suivant, le 29 mars, pour ce qui est du second tour, elle vise à élire le conseil départemental, qui était jusqu'ici le conseil général. Les conseillers seront élus pour 6 ans, alors on va commencer par le commencement. Pourquoi avoir remplacé le conseil général par un nouveau conseil, le conseil départemental? Est-ce que c'est qu'un changement de nom?
Alors c'est principalement un changement de nom. Le terme conseil général date du début du 19e siècle. Et donc il n'est peut-être pas très clair de ce qu'il signifiait. Le terme conseil départemental signifie qu'effectivement il s'agit aujourd'hui de l'instance élue qui s'occupe des affaires du département.
C'est pour être plus clair en fait, tout simplement.
Oui.
Alors ce sont des élections qui ont lieu par canton. C'est quoi un canton? À quoi ça correspond? Parce que c'est ni une ville ni un département, c'est un peu le bazar.
Alors les cantons ont été créés en 1789 par un décret royal du 22 décembre 1789. C'est une subdivision administrative du département. Alors à l'origine, cette subdivision avait sa vie propre. C'était à la fois un lieu de regroupement économique, fonctionnel. C'est là où il y avait la brigade de gendarmerie, la brigade des pompiers, la perception des institutions d'éducation comme le collège, les CEG par exemple, jadis. Et progressivement, le canton s'est vidé de sa substance, on va dire socio-économique, pour devenir une circonscription électorale, ce qu'il est actuellement.
Il n'est plus que ça, en fait.
Oui, surtout avec le redécoupage qui a eu lieu en 2013.
Le nombre de cantons a été divisé par 2, 2054 aujourd'hui. Pourquoi la carte des cantons a-t-elle été redécoupée?
Alors, la carte des cantons, telle qu'elle existait avant la réforme de 2013, datait en fait de Pluviose en 9, c'est-à-dire de 1801. Et donc, elle avait simplement subi des ajouts avec l'urbanisation. Donc, il fallait la refondre parce que vous aviez, si je prends le département du Maine-et-Loire, des écarts énormes entre, par exemple, le canton des Ponts-de-Cé qui faisait 40 000 habitants et des cantons dans le Segréen ou le Baugeois qui étaient en dessous de 5 000 habitants.
Et pourquoi est-ce que ça... On en a entendu autant parler de ce redécoupage des cantons, ça a fait un petit peu polémique, notamment au niveau de la stratégie des partis politiques. Pourquoi ça a posé question ?
Tout redécoupage électoral pose problème, parce qu'en fait, l'opposition du moment va accuser la majorité du moment de découper en sa faveur les limites. Alors, c'est vrai que pour éviter cette polémique, la réforme de 2013 précise des seuils démographiques et des écarts maximum entre cantons. Alors ensuite, l'ajustement dans le détail, c'est le fait du préfet, hein, c'est le fait du préfet du département, et comme d'habitude, ça a provoqué effectivement des tensions, d'autant plus que le nombre a été divisé par deux.
Par contre, le nombre de conseillers, lui, il ne change pas, il n'est pas divisé par deux, parce qu'on ne va pas élire un seul candidat, mais deux, un homme et une femme. Il existait en France ce type de scrutin qu'on appelle binominal paritaire ?
Non. Non, non, il n'existait pas auparavant. Les scrutins binominaux, ils existent, hein, par exemple pour les législatives. Paritaire, c'est quelque chose qui se met en place depuis la loi de 1999. Alors je voulais juste dire aussi qu'en termes de nombre de conseillers départementaux, on passe quand même de 41, c'est la situation actuelle, à 42. Donc on augmente le nombre du fait que chaque canton doit élire deux personnes.
Et le redécoupage, est-ce qu'il découle de cette volonté de parité ou pas du tout ?
Non, le redécoupage, lui, il est lié à des raisons démographiques.
D'accord.
À faire qu'en fait, un canton, aujourd'hui, ça soit 40 000 habitants. Alors, vous voyez, vous avez dans le Maine-et-Loire 816 000 habitants, donc ça vous donne une vingtaine de cantons, ça vous donne les 21 cantons. La parité, c'est une obligation, effectivement, depuis les lois qui ont été votées à partir de 1999, de façon à rééquilibrer. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est urgent, parce que dans le Conseil général actuel de Maine-et-Loire, vous n'avez que 9 femmes et 32 hommes, et vous avez en France des départements, je ne vais pas les citer parce que ça ne serait pas très gentil, mais où il n'y a aucune femme dans le Conseil général.
Et c'est la première élection comme ça où il y a une... Alors, binominale paritaire, ça n'existait pas, mais une parité imposée depuis 99, depuis cette loi de 99, quelles élections ont été paritaires ?
Alors, les élections... municipales ont été en 2001 les premières à être des scrutins paritaires, enfin des scrutins par genre, hein, enfin tout, il fallait l'égalité des genres, mais c'est quelque chose qui doit se diffuser, qui va sans doute se diffuser aux élections régionales que l'on va avoir en décembre, et y compris pour les élections internes. Bon, nous sommes sur une radio universitaire, les prochaines élections à l'université d'Angers seront paritaires en principe.
Alors, deux noms sur un même bulletin, des bulletins de plein de couleurs différentes. On va donc passer au mode du scrutin. Comment est-ce qu'on va connaître le vainqueur dans tout ce bazar ? Alors, au premier tour, d'abord, comment ça va se passer ? Qu'est-ce qui va passer le cap du premier tour pour arriver au second tour ?
Alors, la loi électorale a prévu un seuil un peu plus élevé pour se maintenir au second tour en cas de ballotage. Ce seuil, il a été fixé à 12,5% des inscrits. Alors c'est important parce que ça ne permet à des candidats de se maintenir que s'ils obtiennent un score en gros de 20% des exprimés ou 25% des exprimés. Donc c'est un mode de scrutin, enfin ce seuil de 12,5% des inscrits est un seuil très sélectif. Et de même, on ne peut être élu au premier tour que s'il y a 25% des électeurs qui ont voté, qui se sont déplacés.
Et qu'est-ce qui se passe si les 25% ne sont pas déplacés ?
Eh bien, on fait un deuxième tour, même si le candidat a 95% des voix.
Alors 12,5%, vous venez de nous le dire, c'est un seuil assez sélectif. Est-ce qu'on peut quand même se retrouver avec des triangulaires ? Et allez, allons-y, pourquoi pas des quadrangulaires, des quinquangulaires ?
Alors, je pense que la loi, elle a été faite pour éviter les quadrangulaires et les triangulaires. Donc, il est très probable qu'il y en aura assez peu. Parce que si on se situe au niveau habituel de l'abstention pour ce type d'élection. L'abstention est généralement forte pour les cantonales en dehors en dehors du contexte politique actuel. Si on se fixe un seuil d'environ 55-60% de participation, bah, ça veut dire qu'un candidat doit dépasser 20-25% des exprimés pour pouvoir se maintenir au second tour.
Et le vote blanc est-il comptabilisé dans ce scrutin ?
À ma connaissance, non. C'est-à-dire que les blancs et nuls sont comptabilisés à la fin du dépouillement, mais en fait, dans la réalité des choses, on en tient de moins en moins, on n'en tient pas compte. Et quand vous consulterez les résultats ou quand vous suivrez la soirée électorale, vous verrez qu'on parlera un peu des blancs et des nuls à 20h03 ou à 20h04, et à 20h15, on parlera que des résultats en matière d'exprimés.
On va continuer d'y voir plus clair avec vous, Christian Pillet. Ce sera juste après Kit Francescoli avec My Body.
My baby, I know I made you angry, but you love me. I love the way you kiss me once, boo. Before you leave angry, 'cause I love you. So won't you forgive me now?
Sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et ce soir, dans le sous-marin, on parle des élections départementales et on y voit plus clair avec Christian Pillet, professeur de géographie sociale à l'Université d'Angers. Alors parlons du rôle de ce futur conseil départemental. Pour ce faire, on va en passer par le conseil général, l'ancien conseil général. Alors, il gérait les collèges, les transports scolaires, les routes départementales et surtout, point important, l'aide sociale et la santé. On va citer les aides à l'enfance, la prévention sanitaire, la protection sanitaire de la famille, le RSA, etc., etc. Ça, c'était pour les conseils généraux. Qu'est-ce qui va en être pour les conseils départementaux ?
Bien, pour les conseils départementaux, normalement, ça ne devrait pas bouger beaucoup. C'est-à-dire que le département va rester une instance de proximité centrée sur le social, sur les solidarités. Si on regarde le budget de ce département, si on prend l'exemple du Maine-et-Loire, on a un budget qui approche les 700 millions d'euros par an, et hors masse salariale, c'est-à-dire hors des salaires ressources humaines, etc., entretien d'un certain nombre de services, eh bien, l'action sanitaire et sociale représente 60% des dépenses du département. Le reste, c'est comme vous l'avez dit, les infrastructures, les transports, et également la gestion des personnels des collèges, pas des enseignants, hein, mais qui sont encore sur une gestion nationale, mais la gestion des agents administratifs des collèges, des cantines, etc., des agents d'entretien, il y en a 450, 500. Donc c'est une instance de proximité qui est importante dans la vie quotidienne. Même si les personnes, les gens ne s'en rendent pas directement compte, le Conseil général a une importance quand même bien dimensionnée. Alors, sur ce que ça change, bon, il y a un point sur lequel on a beaucoup insisté dans le débat précédent, c'est la perte de la clause de compétence générale.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors, ça permettait au Conseil général, comme à d'autres collectivités territoriales, d'intervenir sur des domaines qui n'étaient pas forcément ceux de ses compétences obligatoires. Je prends un exemple. L'enseignement supérieur, la recherche et l'enseignement supérieur. Le Conseil général, on le sait très bien en Maine-et-Loire, distribuer des bourses, par exemple, aux étudiants, ou à financer pour partie des bâtiments. Aujourd'hui, la loi qui va s'imposer, qui sera la loi NOTRe, Nouvelle Organisation Territoriale de la République, répartit ses compétences par paquet. Et donc, un certain nombre d'actions qu'avait pu faire le Conseil général, si je prends le domaine de la recherche, mais je peux prendre aussi le domaine du sport, ces actions-là ne pourront plus être possibles et seront réservées à un autre niveau, par exemple celui de la région ou celui des communes et des intercommunalités.
Donc il y a certaines compétences qui vont lui être enlevées à ce Conseil départemental.
Oui.
Quelles autres compétences, par exemple ?
Non, il n'y a pas de compétences qui vont lui être enlevées au sens propre. Il ne pourra faire que les compétences dont il est actuellement titulaire, c'est-à-dire l'aide sanitaire et sociale, le transport scolaire, l'entretien des infrastructures, etc. Mais ce qu'il faisait en dehors de ses compétences, par accord avec les autres collectivités ou par volonté, il ne pourra plus les faire.
Alors, vous avez parlé de cette loi, la loi NOTRe pour Nouvelle Organisation Territoriale de la République. En fait, c'est elle qui va fixer définitivement les compétences du Conseil départemental, mais elle n'a pas encore été finalisée, votée ?
Non. La première lecture a été faite, est votée par l'Assemblée nationale il y a très peu de temps, je crois que c'est le 10 mars. Donc, comme dans notre système constitutionnel, maintenant il faut que ça passe au Sénat. Puis si le Sénat vote dans les mêmes dispositions, eh bien elle sera promulguée et il y aura des décrets d'application qui suivront. Si le Sénat n'est pas d'accord, eh bien il y aura une nouvelle lecture devant l'Assemblée nationale. Ce qui fait qu'on peut penser qu'au printemps, fin du printemps, mai-juin, ça sera voté, mais il se peut aussi que des parlementaires déposent un recours devant le Conseil constitutionnel. S'il y a des choses sur lesquelles ils pensent que la loi ne respecte pas la Constitution. Et donc, ça peut retarder un petit peu son application.
C'est pas un peu bizarre, ça, de voter pour des gens sans savoir vraiment exactement ce qu'ils vont faire ?
C'est tout le débat, effectivement. Oui. Les compétences sont en pointillé pour l'instant, même si dans la réalité, on sait bien en gros de quoi le Conseil départemental va s'occuper. Mais c'est vrai que sur un plan réglementaire, oui, c'est une première.
Donc, au début de son mandat, François Hollande voulait transférer les compétences des conseils généraux aux régions. Manuel Valls lui a même annoncé la fin des conseils généraux avant de se rétracter. Quelle espérance de vie on peut donner à ces conseils départementaux ?
Alors déjà, il y a deux sur la France métropolitaine, il y a deux métropoles. Hein, c'est le statut des métropoles, Paris et Lyon, qui n'éliront plus, qui n'élisent pas d'ailleurs, donc le scrutin ne sera pas complètement national, qui n'élisent pas de conseil départemental et qui auront un conseil métropolitain qui sera renouvelé avec les municipales en 2020. La durée de vie, elle est éminemment politique. Elle va dépendre des élections ultérieures. Ce pourquoi Manuel Valls s'est rétracté, c'est parce qu'il s'est heurté à une fronde importante des présidents de conseils généraux. Et puis par ailleurs, le Sénat, le Grand Conseil des collectivités de France, est composé de beaucoup d'élus du conseil général, du conseil départemental. Si vous prenez Angers, le maire actuel d'Angers, il est sénateur et c'est un ancien président du conseil général. Donc il y a eu une espèce de réflexe qu'on ne pourrait pas qualifier de corporatiste à mon avis, mais qui avait comme argument le maintien d'une instance territoriale intermédiaire entre les intercommunalités et les régions.
On va donner un mot sur l'abstention, on l'annonce encore énorme, 56% déjà aux dernières élections cantonales. Bon, à l'époque, c'était 50% des conseillers qui étaient renouvelés.
La moitié, oui.
Donc, on doit s'attendre à combien ce dimanche ?
Alors, historiquement, donc nous avons des élections cantonales en France depuis 1842, depuis la monarchie de Juillet. Et elles ont été toujours marquées par une forte abstention. Il y a eu deux ou trois exceptions. Au début de la Troisième République, quand il y avait le débat entre les monarchistes et les républicains, et puis une abstention beaucoup plus faible en 1982, suite à l'alternance et à l'élection de François Mitterrand. Mais en dehors de ces événements exceptionnels, où c'était pas tellement le canton qui était en ligne de mire, mais plutôt la situation politique nationale, l'abstention a toujours été très forte. Elle a été plutôt forte que pour les scrutins législatifs ou présidentiels. Alors, cette abstention, elle est très différentielle sur le plan géographique. Elle est plutôt faible dans les cantons ruraux, parce qu'effectivement, il y a une dimension de proximité qui est très forte, surtout dans les petits cantons. Et elle est généralement forte en milieu urbain. Ce que vous avez passé en début d'émission, c'est probablement en ville que ça a été enregistré, et les gens ne connaissent pas les limites forcément des cantons, ni les fonctions des cantons à l'échelle urbaine. Alors, pour essayer de répondre complètement à votre question autant que possible, on a redécoupé les cantons. Donc, les gens ne savent pas très bien comment, dans quel canton ils sont exactement, comment le découpage s'est effectué et le sentiment d'identité. Par exemple, les chefs-lieux de canton ont changé. Quand vous étiez dans le canton de Poincé, eh bien, vous savez très bien quelles étaient les limites du canton de Poincé. Aujourd'hui, il a été redécoupé, donc on va avoir à tenir compte dans la montée de l'abstention, qui sera sans doute très forte, à la fois de la situation politique nationale, la crise du système politique dans laquelle nous sommes, mais aussi, très probablement, du fait que les limites territoriales, les nouveaux cantons, ne sont pas encore assimilés par la population.
Est-ce qu'on a manqué de pédagogie sur ce coup-là ?
Je crois qu'on a manqué d'informations, beaucoup d'informations, et que le débat sur les régions, sur le redécoupage des régions, a occulté les discussions sur les découpages cantonaux. Pour avoir suivi sur la presse régionale, presse quotidienne régionale, les informations, elles sont parues. Il y a eu les schémas, les cartes de redécoupage, mais ça n'a jamais eu autant d'émotion ou d'attrait que l'hypothétique fusion Bretagne-Pays de la Loire ou autre chose. Je crois qu'on n'a pas du tout saisi l'importance de ce redécoupage, parce que c'est un simple redécoupage électoral.
On va, si c'est possible, Christian Pillet, imaginer les pronostics pour ces élections départementales. Il est annoncé partout qu'il va y avoir une montée du Front National, une calotte pour le PS, voilà. À quoi est-ce qu'on peut s'imaginer, à quoi va ressembler la carte des départements le 29 mars au soir ?
Alors, je vais pas entrer dans le détail des sondages, parce que nous sommes abreuvés de sondages, et effectivement, ces sondages posent problème. La qualité de ces sondages pose problème, parce qu'il faut bien tenir compte du fait que ni Paris ni Lyon ne votent. Donc, c'est quand même important en termes électoraux, et que d'autre part, il s'agit d'une élection, de 2000 élections locales. Alors, s'il est vrai que les personnalités vont jouer quand même un rôle dans ce scrutin, et vont donc, à mon avis, contrebalancer les effets nationaux. Alors, les sondages, effectivement, nous mettent en tête le Front National, avec des estimations qui varient entre 28 et 30% des suffrages. C'est vrai que ça pourrait être le cas parce qu'il y a partout des candidats, presque partout des binômes, enfin, des quadrinômes, parce qu'il y a les deux remplaçants du Front National. Cela dit, ce sont des candidats qui sont souvent inconnus sur le territoire. Donc on ne peut pas penser forcément que le vote en faveur de ce parti soit aussi élevé que ce qu'indiquent des sondages qui sont, eux, calculés sur des questions nationales. Il va y avoir un paramètre local qui va certainement oblitérer. Et puis, il y a le fait que vous avez 2000 élections, et donc il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans les différents partis. Il y a ce qu'on appelle les divers droites, les divers gauches, les indépendants, les sans-étiquettes, etc. Donc, il va être très difficile d'avoir une physionomie aussi claire que dans un scrutin national ou européen, ou législatif. Et alors, cela dit, on peut penser qu'effectivement, au vu des enquêtes et d'opinion, le Front National aura sans doute plus que ce qu'il avait la dernière fois, en 2011, et que les partis de la majorité, enfin le Parti Socialiste, les partis de gauche auront sans doute moins de ce qu'ils avaient en 2011. Alors je rappelle que 2011, c'était la veille de l'élection de François Hollande, donc dans une période d'ascension de la gauche. Là, on est plutôt dans une période, on va dire, de décrue. Cela dit, je ne crois pas qu'il faut se polariser trop sur le Front National en tant que tel, parce que ces élections sont des élections aussi avec des enjeux locaux. Comment on va gérer les départements, avec qui va-t-on gérer ces départements, quels projets, comment articuler les projets des départements avec les compétences futures des régions et des intercommunalités. On parle très peu des nouvelles intercommunalités aussi, qui structureront aussi la vie quotidienne des citoyens.
Merci beaucoup Christian Pillet d'avoir été avec nous ce soir dans le sous-marin.
Ben je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.
Vous nous avez aidé à y voir plus clair. Run, run, run till the alley comes.
Sorrow soon begun. Run. corner run and all is done.
C'était The No Twist avec Run, Run, Run.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Ça va boucher dans tous les coins de la ville. Du 24 mars au 3 avril, le Festival de la création universitaire propose une vingtaine de rendez-vous. Du théâtre à la photo, de la danse aux nouvelles, des arts de la rue au cinéma. Il y en aura pour tout le monde parce qu'en plus, c'est gratuit. Bonsoir Sophie Génoux.
Bonsoir.
Vous êtes chargée de projet culture à la direction de la culture et des initiatives de l'Université d'Angers. Et vous venez donc nous parler de cette troisième édition du Festival de la création universitaire. On va revenir aux sources, à la genèse du festival. Peut-être est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce qu'il est né?
Alors le festival donc est né il y a 3 ans, là c'est la 3e édition. À chaque fois il a lieu à peu près en mars-avril, avant les vacances d'avril. Et en fait, ce festival, l'intitulé exactement, a été choisi par notre nouveau vice-président à la culture et aux initiatives, qui a été nommé donc il y a 3 ans, pour 4 ans. Et donc sa volonté, c'était pas de créer qu'un festival de théâtre, mais vraiment un festival dédié à la création universitaire dans son ensemble, et pas un festival que local ou que français, mais aussi ouvert sur l'international. Donc voilà un petit peu en quelques mots, quoi, très rapidement.
Alors on va prendre le programme dans l'ordre, même si on ne va pas réussir à être exhaustif, vu qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui vont se passer. On va commencer avec la soirée d'ouverture ou de pré-ouverture lundi prochain, lundi 23 mars. Alors avec Tout est dans la tête, qui est créé par l'atelier des arts de la rue de l'UA. En fait, c'est une visite en audio-description sans que les visiteurs aient le son, c'est ça?
C'est ça, et ça va même plus loin, c'est vraiment du théâtre de l'invisible, c'est-à-dire que, bon, je vous révèle le truc, mais je ne vous dirai pas trop les lieux où ça se passe, justement, c'est le but, c'est d'être surpris par cette visite, cette fausse visite. En fait, c'est que du théâtre, c'est-à-dire que personne n'entend rien, même dans les casques, c'est relié à rien du tout. Donc c'est vraiment une fausse visite de lieu, et cet atelier art de la rue a été créé dans le cadre de la carte culture. Il y a 10 étudiants qui ont répondu présents toute l'année, donc c'est vraiment super, ça fonctionne bien. Ils sont entraînés dans les rues d'Angers et là ils joueront, je peux le dire, dans les deux BU de universitaires et les deux cafétérias du rue.
Le lendemain, là c'est la soirée d'ouverture, disons plus officielle, parce qu'en plus c'est sur invitation, c'est au château du Plessis-Massé, la classe, ouais. Avec la fanfare de l'UA, les étudiants du Centre National de Danse Contemporaine et des étudiants d'une troupe de la Sorbonne. Donc, c'est des Parisiens qui viennent jusqu'à Angers pour jouer Yvonne, princesse de Bourgogne, dont une version a été jouée au NTA, je crois, ouais. À l'automne. Un petit mot sur cette soirée d'ouverture au château. Alors, elle n'est pas ouverte à tout le monde?
Non, effectivement, ce n'est pas ouvert à tout le monde. C'est une soirée sur invitation, pour une question de jauge aussi, tout simplement, parce que ce n'est pas une très grande jauge. C'est une soirée, on en est assez fiers, parce que c'est la première fois qu'on va travailler vraiment avec le PCC Anjou Théâtre et faire cette soirée donc, au château d'Angers. La particularité, c'est qu'on jouera dans... Enfin, les spectacles se dérouleront dans trois lieux. Donc, c'est un peu aussi une soirée itinérante. Et puis, effectivement, on accueille les étudiants du CNDC, donc qui sont en double inscription à l'Université d'Angers. Donc, 20 étudiants qui danseront dans le logis du château du Plessis-Massé. Donc, c'est une première pour eux aussi, c'est sympa. Et puis, des étudiants donc de la compagnie Bal Compagnie, qui viennent de Paris-Sorbonne Nouvelle, et qui joueront effectivement Yvonne, adaptée de Gombrowicz.
Un mot sur le théâtre qui a quand même si c'est pas le cœur du festival, puisque c'est un festival pluridisciplinaire, mais c'est une grande part dans ce festival, avec la participation des trois coups, donc de l'UCO, des théâtres de l'université, des tréteaux de l'université, pardon, des zygomatiques de l'université aussi.
Oui, c'est ça.
Est-ce que Angers, c'est une ville qui est particulièrement dynamique en termes de production de théâtre étudiant?
Extrêmement dynamique. D'ailleurs, c'était compliqué, sincèrement, de faire la sélection, parce que les tréteaux de l'université, cette année, ont 8 projets. Les trois coups, ils en ont plein aussi. D'ailleurs, ils sont en plein festival voilà, en ce moment. Et puis, d'ailleurs, on le remarque avec le festival Artefact. Alors, ce n'est pas le moment de faire trop leur pub, mais quand même, Artefact, c'est quand même le rassemblement du collectif des facs qui rassemble toutes les assos de théâtre universitaire angevine, même les SCA, les zygomatiques, les alimprovistes, etc. J'en oublie. Mais voilà, c'est vraiment très très riche en termes de théâtre et il a fallu faire un choix, effectivement.
Alors justement, on va parler des choix que vous avez faits avant de continuer dans la programmation. Comment est-ce que ça s'est passé? C'est les étudiants qui viennent et qui vous disent « voilà, ce qu'on fait, c'est pas mal ». Et après, vous faites le choix. Comment ça s'est passé exactement?
Alors c'est sur dossier, déjà, à la base. On propose donc aux étudiants, que ce soit au niveau local ou à toutes les universités de France et au niveau de l'international, on a envoyé le dossier à 313 universités nationales, internationales. Voilà, donc les étudiants nous envoient des dossiers. Ensuite, alors si c'est des troupes locales, on va les voir, on va voir leur travail. C'est aussi au niveau de la qualité après, de l'engagement, de voilà, si ça nous paraît bien, enfin vraiment une question de qualité aussi, parce que le but c'est de présenter de la qualité aux spectateurs. Et puis une question de disponibilité, parfois des troupes postulent et puis en fait c'est pas possible de les mettre dans la programmation. Et puis après une question plutôt au niveau technique, est-ce qu'on peut les accueillir, est-ce qu'il faut pas des plateaux beaucoup trop grands ou voilà.
Combien de candidatures pour avoir une idée?
On a reçu à peu près 35 candidatures en tout. Et beaucoup de danse cette année. Énormément de danse et théâtre. Et aussi un peu de cinéma.
On poursuit juste sur le théâtre, puisqu'il y aura des restitutions d'ateliers de théâtre des étudiants de l'Université d'Angers et du personnel de l'Université
Exactement.
D'Angers.
C'est nouveau.
Comment est-ce que ça s'est passé, ces ateliers-là? C'était via la carte culture également?
Alors, pour l'atelier théâtre étudiant, oui, c'est via la carte culture. Il y a 12 étudiants qui participent à cet atelier. Ils sont encadrés par Clémence Solignac du collectif Citron, collectif Angevin. Donc, ils ont répété toute l'année et ils ont créé un petit spectacle qui dure à peu près une heure. Et l'atelier théâtre des personnels, c'est une initiative pareille de la direction de la culture et des initiatives, de mettre en place un atelier pour les personnels de l'Université d'Angers. Ça se passe très bien.
Ça a bien pris.
Ouais, ils sont 11 ou 12, je crois, dans cet atelier-là. Et pareil, ils joueront du Grimbert, donc 20 minutes de Grimbert dans le cadre du festival. C'est ça aussi la création universitaire, c'est pas que étudiants.
Alors pendant le festival de la création universitaire, il y aura aussi de la danse. Alors on en a parlé pour la soirée d'ouverture au château du Plessis-Massé. Il y aura aussi une chorégraphie de Marion Ballester au CNDC qui s'appelle Fort Intérieur. Il y a un point d'exclamation. Comment ça s'est fait cette rencontre avec Marion Ballester?
Alors en fait, avec Marion, ça nous a paru assez logique de mettre leurs créations qu'ils vont présenter donc pour la première fois au studio de création du CNDC dans le cadre de notre programme, puisque ça cède la création universitaire. Ça se passe au CNDC. Donc le tout public peut réserver aussi bien par le CNDC que par le biais de la direction de la culture. C'est vraiment ouvert à tout le monde, mais on tenait à le mettre dans notre programme. Quand même, voilà.
Il y aura aussi une expo photo pendant ce festival sur le thème de la lumière avec le concours de l'UCO de l'École supérieure des beaux-arts et de l'UA, l'Université d'Angers. Est-ce que c'est le même thème que les concours du CROUS cette année, je
Exactement.
Crois, la lumière ?
Exactement.
En fait, c'est une fusion, comment
voilà.
ça s'est
en
passé ?
En fait, l'année dernière, tout simplement, en fait, au lieu de faire, entre guillemets, chacun son concours photo dans son coin, Lucie Plessis, qui coordonne ce concours photo à la direction de la culture et des initiatives...
Qui est aussi en charge des galeries.
Voilà, qui est aussi en charge des deux galeries dans les deux BU de l'université. En fait, c'est coordonné tout simplement avec le CROUS. Et donc les étudiants là, qui ont postulé pour le concours photo à Angers vont pouvoir aussi postuler avec leurs photos au concours après niveau départemental, régional, etc. Et monter jusqu'au niveau national au concours du CROUS.
Et la photo, j'imagine que c'est quelque chose qui prend bien, non ?
Ouais, très bien. Ils ont reçu, je crois, 300 photos. C'était énorme, énorme. La sélection est faite et l'expo va être montée demain dans le forum de l'espace culturel. Donc c'est ouvert à tout le monde.
Autre concours, le concours de nouvelles, c'est la 4e édition, je crois,
Exactement,
du concours de nouvelles. Rappelez-nous le principe de ce concours-là.
Alors, le concours de nouvelles, donc, ce sont des étudiants de l'UCO ou de l'UA qui rédigent des nouvelles sur une thématique. Cette année, c'est voyage au pluriel. Ils rédigent ces nouvelles soit en anglais, soit en français. Ensuite, il n'y a pas de sélection, donc toutes les nouvelles sont retenues, on va dire. Et puis, dans la soirée concours de nouvelles, remise des prix de concours de nouvelles, on s'était dit c'est un petit peu frustrant pour les étudiants qui ne gagnent pas un prix. Voilà, il y a un jury qui est mis en place, etc. Et pour les étudiants qui ne gagnent pas un prix, on se trouvait un peu dommage voilà, qu'ils viennent et puis ils ne gagnent rien. Et donc, ça fait la deuxième année qu'on met en place un spectacle, qu'on crée complètement. D'ailleurs, ils sont en répétition en ce moment. On fait appel à d'autres étudiants qui n'ont pas écrit et qui mettent en lecture, qui mettent en voix, qui mettent en scène, c'est des extraits de chaque nouvelle qui a été écrite.
Alors, il y aura aussi du cinéma pendant ce festival, avec le fameux jury étudiant du festival Premier Plan, qu'on a pas mal croisé à Radio Campus Angers pendant le festival. Alors, le jury qui va diffuser 3 courts-métrages d'école de cinéma qu'ils ont eux-mêmes sélectionnés.
C'est ça, oui. Alors, il y aura Onos Oblivious, notamment le film qui a été primé par le jury étudiant Premier Plan, donc en partenariat avec la FEDESA. Et le festival Premier Plan, forcément. Et puis, les deux autres films, c'est deux courts-métrages coup de cœur qu'ils avaient envie de reprojeter. Et la petite particularité qu'il n'y a pas sur le... Enfin, le petit plus qu'il n'y a pas sur le programme, parce que c'est la nouveauté, on aura en première partie un court-métrage d'un étudiant de l'ESBA qu'on avait repéré, mais on n'arrivait pas à le contacter. Mais ça y est, là, on a réussi, donc ça sera projeté à cette soirée-là. Et donc, le 3 avril, à la clôture. Et en deuxième partie, on aura aussi des étudiants de l'UCO qui ont fait Focus pendant le festival Premier Plan.
Le magazine, le web magazine, je ne sais pas comment...
C'est ça, ouais, enfin, magazine Focus, audiovisuel. Oui, voilà, audiovisuel. Voilà, pendant Premier Plan. Donc vraiment une soirée en 3 parties avec encore là ESBA, UCO et UA. Donc c'est chouette.
Et il faut dire que vous n'avez pas que des créateurs angevins. Alors on a parlé de la troupe de la Sorbonne. Il y aura aussi une troupe qui nous vient d'Agen, du Théâtre École Aquitaine.
C'est ça, ouais.
Et puis... on va voir plus loin, en Allemagne et à Taïwan, jusque-là.
Ouais, jusque-là.
Est-ce que vous pouvez nous parler, alors parce que là vous nous avez dit comment vous les aviez sélectionnés et tout ça, mais enfin, allez juger une troupe qui est à Taïwan, c'est quand même
oui.
un peu compliqué.
Alors en fait ils font de la musique, donc déjà, bon c'est vrai qu'on n'a pas entendu forcément ce qu'ils font, mais c'était la particularité que ce sont des étudiants dont l'université de Taipei est jumelée avec l'université d'Angers, donc il y avait aussi ce lien-là. Et puis voilà, l'air, en fait ça s'appelle l'air de Nagashi, ce qu'ils proposent, c'est un air ancestral taïwanais. Et la particularité, c'est qu'ils ne le jouent pas en salle, ils jouent dans la rue. Donc nous, ça nous intéressait pour qu'ils puissent jouer sur les campus, pour qu'il se passe des choses sur les campus. Et ils joueront aussi Place Romain, donc en plein centre-ville d'Angers, un mercredi après-midi. Et ça aussi, on trouvait ça intéressant de sortir le festival un peu de ces salles. Voilà, donc l'air de Nagashi par l'université de Taipei. Voilà.
Parlons des lieux, justement, la transition est toute faite. Donc évidemment, l'espace culturel de l'UA, on a parlé du château du Plessis-Massé, le centre-ville qu'on investit, la maison de quartier Le Carnet, la salle Claude Chabrol, le NTA, le CNDC, le musée des Beaux-Arts, on va en parler tout de suite. Tous ces espaces, c'est effectivement important pour vous de les investir pour prouver que la création universitaire, elle peut s'infuser dans la ville.
Oui, c'est ça. Le but, y a deux choses en fait. Déjà, c'est d'avoir des espaces différents. Donc, par exemple, la salle Claude Chabrol ou la salle du Carnet, c'est des grandes salles. C'est vraiment intéressant pour pouvoir accueillir des grandes troupes. Par exemple, les étudiants d'Agen joueront à Chabrol. Ils sont 23 sur le plateau. C'est une comédie musicale. Ça ne tenait pas à l'espace culturel, concrètement. Et puis, il y a aussi le fait d'aller dans les quartiers. Vraiment, le quartier Saint-Serge, le quartier Belle-Beille, et d'investir la ville pour que le festival soit ouvert vraiment à tout le monde, au plus grand nombre.
Et d'investir aussi donc le Musée des Beaux-Arts le mardi 31 mars en partenariat avec le Chabada. Puis nous, Radio Campus Angers, on sera là aussi parce que, bah voilà, on y sera.
Voilà, vous êtes les bienvenus.
Alors, comment est-ce que vous expliquez le partenariat avec le Chabada, le Musée des Beaux-Arts? Comment s'est faite la rencontre?
Alors, en fait, l'année dernière, le Musée des Beaux-Arts avait déjà eu envie de faire une soirée étudiante en plein pendant la programmation du Festival de la Création Universitaire. Donc on s'était dit, mince, c'est dommage, on ne s'est pas coordonné. Donc cette année, on s'y est pris beaucoup plus tôt. On a calé une date ensemble et le Musée des Beaux-Arts avait très envie de faire une carte blanche au Chabada. Donc le Chabada choisissait concrètement ce qu'il avait envie de programmer dans le musée, dans les salles du musée. Donc des concerts qui vont être là à travers les œuvres, donc une façon de voir les œuvres différemment et d'accéder au musée, comme on n'y va pas souvent. Et nous, l'Université d'Angers, avec le Festival de la Création Universitaire, on souhaitait, et c'est ce qu'on va faire, proposer un ciné-concert étudiant qui avait été créé en janvier de cette année par des étudiants, d'ailleurs encadrés par des professionnels proposés par le Chabada. Donc voilà, on boucle la boucle. Et donc ces étudiants-là, ils sont 5 et ils joueront effectivement ciné-concert étudiant sur un court-métrage de Frankenstein dans le musée aussi, avec projection sur les murs d'une salle du musée. Voilà.
Et ce soir-là, il y aura aussi Black Yaya, Cherry Plum, Chroma Club, il y en aura plein. Et ce sera à partir de 20h.
C'est gratuit, c'est ouvert à tous les étudiants angevins, 20h minuit, donc ça va vraiment être la fête.
Et on peut s'imaginer qu'il va y avoir effectivement beaucoup de monde, puisque la nuit des étudiants au Musée des Beaux-Arts qui a lieu en novembre, c'est un carton plein.
Voilà, et là je pense que ça va être la même chose, on va faire attention aux jauges quand même, de ne pas être trop débordé. Mais oui, effectivement, quand on voit déjà sur le Facebook, ça répond très très bien.
Et puis, pour ceux qui n'auront pas pu rentrer, ils pourront toujours écouter la radio.
Exactement.
Il y aura aussi, pendant ce festival de la création universitaire, des ateliers. Alors là, réservés aux étudiants de l'UA.
Principalement, oui.
Un atelier danse contemporaine.
Au CNDC, ouais. Normalement, c'est proposé dans le cadre de la carte culture, mais on s'est dit que ce serait intéressant dans le cadre du festival que les étudiants se rencontrent. Donc l'idée, c'est de l'ouvrir après à tous les étudiants, si possible UA. Après, s'il y a d'autres étudiants qui nous entendent et qui sont intéressés, pourquoi pas. Et puis aussi un workshop, théâtre et corps, donc plutôt théâtre, encadré par deux comédiennes du collectif Citron. Un workshop qui se déroulera à l'espace culturel. Pareil, c'est pour 15 personnes. Il reste encore de la place, 15 étudiants, donc c'est ouvert.
Voilà, je ne sais pas si on a tout dit sur ce festival de la création universitaire, mais en tous les cas, on a une belle vue déjà d'ensemble de ce que ça va être. C'est 15 jours, donc du 24 mars au 3 avril dans toute la ville, gratuit. C'est gratuit. Important de le préciser, ouais. Donc ouvert vraiment à tout le monde. Et si on veut plus d'informations, on va sur le site de l'Université d'Angers.
C'est ça, le site de l'UA, le Facebook Culture UA. Et on vous invite à réserver pour les soirées. Voilà, on garde des places sur place, mais on vous invite fortement à réserver. Donc les réservations se font par mail à dci@contact-univ.fr. Mais vous retrouvez toutes les infos sur le site internet.
Merci beaucoup Sophie.
Merci.
Génaud, et bon courage.
Ouais, ça va être chouette.
The Temples avec Shelter Song.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
La perme de ce soir, ça se passe au Gecko rue Rabelais, un concert de Terre Happy, un concert au chapeau à partir de 21h. On termine cette émission avec l'éternelle bulle sonore, un moment campusien à écouter ou à réécouter. Hier soir, Pas de panique nous a fait une spéciale piraterie, extrait avec la chronique de Profi.
Ce petit guide, en fait, il comprend toutes les techniques anti-piratage les plus fourbes, étranges ou ésotériques. Et pour l'occasion, j'ai essayé de l'appeler l'Almacrac.
Oui, voilà, voilà. Un nom très à propos.
Un nom très à propos, un très très bon jeu de mots. Donc l'Almacrac du petit pirate. J'ai pas encore trouvé un titre plus accrocheur, donc ça sera le titre définitif.
Ça sonne très bien, j'ai dit directement.
Alors ça sort en 2016 aux éditions... Rien du tout.
Alors tout d'abord, il y a la méga démo. Donc alors la méga démo, c'est un adjectif, ça se dit d'un jeu piraté complet où il manque juste le plus important. Donc par exemple, je prendrais Amplitude Studio. Je pense que vous les connaissez bien depuis que vous écoutez Pas de panique.
Oui, c'est vrai qu'on avait fait un petit retour sur ce studio indépendant qui est assez prometteur, un studio français.
Pour moi, c'est le meilleur studio français, quoi. Ils ont créé la saga des Endless, donc que ce soit Endless Space, Endless Legend ou Dungeon of the Endless. Donc justement, en fait, leur fait d'armes, c'est d'avoir mis en ligne leur jeu, donc Endless Space, Endless Legend, dans leur version complète, avec une seule différence par rapport à la version officielle. Donc quand tu l'achètes, c'est que les serveurs online ne sont pas accessibles.
C'est bien pensé, ça fait une première vitrine du coup de mettre à disposition.
Et bah exactement, parce que l'idée est super maligne. Le malin pirate il télécharge le jeu, il y joue, il surkiffe, il se dit qu'il a envie d'aller plus loin, et puis là il se rend compte que pour y jouer contre d'autres joueurs, il est obligé de payer, et il l'achète au bout du compte.
Vous pouvez réécouter la totalité du programme sur le www.radiocampusangers.com et dans un instant dès 20h, vous retrouvez une rediffusion de l'émission de Groupe Locaux Turbulence. Ce soir, c'est Lula Box qui est dans le micro et Lula Box qui est programmée le mercredi 1er avril dans le cadre de nos 10 ans au T-Rock Coco. Nous, on se retrouve lundi à 19h. Merci à Adrien et à Thomas pour la co-préparation de l'émission et à Pierre pour la réalisation. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous.
Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.